Au quotidien, 5e édition.
Bonjour, Yvan Deslauriers au micro avec vous. Je suis accompagné de ma co-animatrice, Francine Forgette. Bonjour, Francine.
Bonjour, Yvan. Vous allez bien?
Très bien, merci. Et on est surveillé par Nicolas. C'est parce que vous n'avez pas vu la moue de Nicolas Schwartzmann, qui n'était pas sûr de vouloir nous surveiller tant que ça, je pense. Allez, allez.
Mais on m'a jamais nommé comme un surveilleur.
Ou un surveillant, peut-être.
Un surveillant, oui.
Oui. Alors, tu nous tiens à l'œil, puis tu nous dis si on fait des écarts.
Parfait, ça. Je vais faire ça, Yvan.
D'accord, merci. Donc, c'est une journée un peu pluvieuse en ce 10 juin. Vous êtes à l'émission Au quotidien 5e édition, qui est notre 8e édition. C'est comme les jeunes enfants, hein? On compte les mois. Puis un jour, ils vont avoir 3 ans et demi. Puis un jour, il n'y aura plus de mois, il n'y aura plus de demi. Ça va être juste des années. Peut-être que nous, on se rendra jusque-là. On ne sait pas.
On verra dans notre cas. Mais pour le moment, on prend plaisir à voir qu'on est encore ici avec vous. Et on est très content d'être ici, d'ailleurs.
Tout à fait. Et un des plaisirs de cette émission-là, c'est d'échanger nos coups de cœur de la semaine. Qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine, Francine?
Écoutez, je me suis concentrée sur la Journée mondiale de la Terre, de l'environnement, excusez.
Oui.
Le 5 juin 2022. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on parle peu d'environnement, Terre. Là, je confonds un peu tout ça, mais on sait qu'on a intérêt à les confondre parce que quand on s'occupe de l'un, on s'occupe de l'autre aussi. Alors, c'est ce qui a retenu mon attention cette semaine et ça m'a incité à aller lire un certain nombre de choses sur l'environnement, sur la Terre. Et j'ai retenu peut-être 2 faits saillants en lien avec cet événement. Le premier, c'est un article que j'ai lu dans le site de The Conversation. Je vous invite à aller voir, c'est The Conversation.
Oui. Mm-hmm.
Et googlez-le en anglais, mais vous pouvez à peu près mettre tous les textes en français. Je vous le dis, mais si vous le googlez la conversation, vous allez voir que c'est ardu un petit peu des fois pour se rendre à où on veut aller. Hein? Et ce texte porte sur en ville, les arbres sont indispensables et on parle surtout des grands arbres. Et c'est une étude qui a été faite par Alison Munson, qui est en écologie urbaine à l'Université Laval, de même que Anaïs Paré. Alors, c'est extrêmement intéressant de voir comment ces arbres nous offrent de grands bénéfices sur le plan environnemental et qu'il faut continuer, je dirais, à les planter, même si des fois on a un petit peu peur compte tenu d'événements violents que nous apporte la météo à cause justement du réchauffement climatique. Deuxième chose en lien avec ce jour de la Terre, c'est une première au Québec, c'est un communiqué qu'on a reçu, c'est extrêmement intéressant. Je veux partager la nouvelle avec vous, c'est qu'il y a un marché, le marché d'ici à Val-David, qui vient d'être accrédité comme marché de la Terre par un organisme international. Et bientôt, en fait, le 11 juin, on va faire un événement tout spécial pour ce marché à Val-David pour souligner son entrée dans ce grand réseau international. Enfin, je vais terminer rapidement avec ça. La semaine dernière, le week-end dernier, après notre émission, j'ai été agréablement surprise dans la Presse Plus de lire 2 dossiers très complets qui nous ont bien aidés à réfléchir, selon moi, sur la langue et l'immigration. Et ils sont signés par des artistes de renom, mais qui ont du solide derrière eux. Alors, je parle de Zachary Richard et de Boukhar Diouf. Je vous invite à retrouver ces articles tout simplement en googlant leur nom et en ajoutant la Presse Plus.
Oui, puis gardez en tête Zachary Richard, parce que dans quelques instants, on va reparler de lui. De mon côté, je vous raconte que je suis allé, je vous l'avais dit la semaine dernière, là, c'était dans mes choses à surveiller pour la semaine à venir, je suis allé à Trois-Rivières pour voir le spectacle Harmonium sans parole, la prestation symphonique de Harmonium. D'abord, le lieu à Trois-Rivières, l'amphithéâtre Cogeco, c'était la première fois que j'y allais. C'est fantastique. C'est vraiment fantastique. La comparaison que je pourrais faire pour certaines personnes, ceux qui sont allés à Joliette pour le festival de musique de Joliette, ben prenez à peu près cet endroit-là, puis multipliez par 2-3, là, puis ça va vous donner une idée de l'amphithéâtre Cogeco. C'est juste que l'amphithéâtre Cogeco, il est adjacent au fleuve.
Oui, c'est ça, c'est sur le bord de l'eau.
Oui. Alors, ça rajoute une couche, si on veut, de fantastique. Et le spectacle lui-même est incroyable. Je peux pas faire une critique musicale d'un spectacle comme ça. J'ai pas les talents et les connaissances. Mais j'ai appris que l'Heptade avait été créé en 1976. Alors, moi, en 1976, j'avais 20 ans. Donc, Harmonium, les trois albums d'Harmonium, là, Harmonium, la cinquième saison et l'Heptade, ça a été fait dans l'espace de 1970 à 1976. Donc moi, c'est la fin de mon adolescence, début de mon âge adulte. J'ai vraiment, comme on disait à l'époque, j'ai trippé. J'ai vraiment, vraiment trippé, sans réserve. Alors, je vous en parle parce que il y a eu une annonce hier qui va vous intéresser. Donc, il va y avoir un triptyque, il va y avoir des représentations à Montréal qui vont se tenir dans trois lieux différents avec trois propositions scéniques différentes. Le 1er, 2 et 3 septembre prochain, Histoire sans parole, Harmonium symphonique sera offert en version grand-messe à l'église Saint-Jean-Baptiste sur le plateau Mont-Royal. C'est une église...
Ah, c'est extraordinaire!
Oui, avec un acoustique vraiment exceptionnel. Le 6, 7 et 8 octobre, le spectacle tel qu'il a été présenté à Trois-Rivières se transportera à la salle Wilfrid Pelletier à la Place des Arts. J'ai déjà dit à Marie que ça serait celui-là que je reverrais. Mais je remarque, avec les dates, les élections, c'est le 3 octobre. OK, je pense que je vais être disponible, peut-être, oui. Et finalement, ceux et celles qui seront à la Maison symphonique les 12, 13 et 14 janvier auront droit à un concert en version orchestrale, sans amplification et sans mise en scène. Dans tous les cas, c'est Nicolas Lemieux qui signera la direction artistique de ces concerts. Il s'inspirera de l'album, dont les arrangements sont l'œuvre de Simon Leclerc. Et la chef Dina Leclerc mènera l'OSM. Dina Leclerc, pour moi, ça a été une révélation. C'est une petite dame qui est une boule d'énergie vraiment impressionnante. Je vous raconte pas le punch à la fin, là, mais il y a quelque chose où elle embarque tout le monde dans une pièce à la fin. C'est vraiment, vraiment fantastique.
Et d'une grande simplicité, d'après ce que j'ai compris en lisant une entrevue que Mario Gérard a faite
oui.
avec elle dans la Presse Plus.
Tout à fait. Alors, c'était mon coup de cœur de la semaine. C'était vraiment ça. L'autre coup de cœur que je voulais vous parler, mais je vais passer rapidement, c'est le début de la navette fluviale. Et surtout, le petit bout là, qui part d'où je demeure, à peu près à Ville d'Anjou, là. Vers l'île Charon pour aller faire du vélo. Là, c'est quelque chose à faire vraiment extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans notre émission, Francine?
Alors moi, je vais recevoir Marcel Dugas avec sa chronique sur Albert Guay. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Albert Guay?
Oui, il me semble.
Ovid Plouf?
Ah oui, oui, oui.
Alors, Marcel Dugas va nous en dire plus. De mon côté, je vais me permettre de me mettre en valeur, puisque je pense que c'est important. Il y a un article qui a été publié sur le régime enregistré d'épargne invalidité qui, semble-t-il, n'est pas utilisé tant que ça auprès des personnes qui ont droit. Alors, dans les paractualités, je vais y revenir.
OK. Je cherchais le lien avec vous, là. C'est pas... là, je viens de le trouver. De mon côté, je parle avec Serge Hamelin. On va finir la chronique de la semaine dernière sur les gros électroménagers et on va peut-être parler du jeûne intermittent. Je vais aussi parler avec une certaine Francine Forget et elle va nous parler de technologie, en particulier les alertes sur nos téléphones. Est-ce que vous allez nous parler des alertes Amber, entre autres?
Oui, voilà. Okay. Et de la nouvelle aussi là, qu'on va implanter, en fait, qu'on va tester pendant un certain temps au Québec.
Et quoi surveiller en fin de semaine? À la Fondation des aveugles du Québec, on va parler avec M. Alexandre Saint-Arnaud, qui est adjoint à la programmation. On est prêt. La chanson du jour, c'est dédiée à une de nos recherchistes. Puis elle va savoir pourquoi dès qu'on va la lancer.
Toute ma vie, j'ai lu la même page du même livre. La même image où y'a que la marée qui arrive. Je voudrais briser ma cage, partir vers d'autres rives. Catherine, Catherine. Grimper les escaliers de la mer jusqu'au ciel. Chasser les cyclones et les orages avec elle. Écrire mon roman d'amour toujours autour d'elle. Catherine, Catherine. Il y a du tonnerre dans ma poitrine. Et plein d'éclairs. Le coin de la rue, je l'ai assez vu. Des homards bleus, j'en ai eu, puis j'en veux plus. Le paradis du petit Jésus, j'y crois plus. Catherine, Catherine.
C'est Zachary Richard avec Robert Charlebois pour la chanson Catherine, Catherine.
Et qu'on dédie à Catherine Bourderon, une de nos recherchistes ici. Si vous avez des défis à nous envoyer de ce genre-là, vous nous écrivez. Vas-y, Francine.
Oui, voilà. Alors, on va enchaîner avec les unes où je ne vois aucune Catherine, mais en tout cas, on a déjà donné nos honneurs. Des unes qui ont parfois des titres similaires ou en tout cas qui portent sur des mêmes nouvelles. Entre autres, Trump tenu responsable, évidemment, de ce qui s'est passé au Capitole. C'est la une du Devoir, mais aussi la même chose dans la Presse Plus qui dit qu'en fait, c'est lui qui a allumé la flamme ou qui l'a attisé. L'attaque violente du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis, on était en 2021, au moment où justement Trump devait céder les pouvoirs à Joe Biden. C'était pas un événement fortuit. C'est un point culminant d'une tentative de coup d'État qui a été orchestrée par Donald Trump. C'est ce que dit le sénateur démocrate du Mississippi, Benny Thompson, en lançant la première d'une série de 6 auditions publiques sur les événements qui ont marqué cette date qui nous a marqués. Du côté de la presse, toujours, on parle de Paul Arcand. Paul Arcand, évidemment, je dis du côté de la presse, mais je devrais dire dans nos trois quotidiens qu'on lit, qu'on vous résume brièvement le vendredi matin, soit Le Devoir, La Presse Plus et Le Journal de Montréal, on parle du roi des ondes et on se rappelle que hier, Paul Arcand a annoncé que dans 2 ans, il céderait son micro le matin. Et bon, oui, il l'a fait un peu d'avance. Certains trouvent que c'est tôt, mais pour lui, il fallait qu'il le fasse, premièrement en toute transparence et deuxièmement parce que, semble-t-il, plusieurs rumeurs circulaient depuis un certain temps. Et là, bien, dans les journaux ce matin, on est déjà rendu à qui va le remplacer. Alors, on aura le temps d'en rediscuter, mais là, il y a toutes sortes de noms qui circulent. Toujours en une de la presse, une nouvelle provenant de Saint-Bruno de Montarville. Il y a un maire qui, veut que l'opposition lui soit loyale. Alors, il s'apprête à modifier le code de déontologie pour permettre, aux élus d'avoir davantage de critères de loyauté.
Ils vont pouvoir réagir, mais pas trop.
Pas trop, c'est ça. Ludovic Grisé-Faran propose ce règlement. Et il y a plusieurs experts là, qui justement, se permettent des commentaires. Et en général, on est un peu, en tout cas, pas trop favorable à ce genre d'initiative. Mm-hmm. Dans Le Devoir, pour y revenir, on parle aussi des contrats gré à gré au Québec. Pendant la période de la pandémie, on a pensé que ça profitait beaucoup aux fournisseurs d'ici, depuis 2021, mais avec étonnement, on se rend compte que finalement, on n'a pas toujours acheté québécois. Donc, on n'a pas toujours prêché par l'exemple du côté du gouvernement. Et entre autres, il y a une enquête de Ulysse Bergeron et Sandrine Véra qui disent que les plus gros contrats ont été, en fait, octroyés à des entreprises américaines. Cardinal Health et Just E, qui ont fourni des équipements de protection individuelle ou encore des tests rapides. Et il y a eu des fabricants québécois qui ont reçu qui ont obtenu des contrats, mais semble-t-il que ça n'a pas été renouvelé. Et on se questionne, en fait, qu'est-ce qui a amené le gouvernement à ne pas procéder ainsi. Sûrement qu'il y a des raisons peut-être de délai de livraison ou des choses comme celle-là. Du côté du Devoir et sur un autre ton, mais même thématique, on parle de l'inflation, on parle de l'économie. Mm-hmm. Alors, dans Le Devoir, on a entrepris une série sur des portraits des visages de l'inflation. C'est le quatrième d'une série. Ça s'appelle « Inégaux devant l'inflation ». Et cette fois-ci, on parle quand même d'un couple qui est assez bien nanti. Une personne, la dame, est déjà à la retraite. Le monsieur, Anthony, il prévoyait, lui, prendre sa retraite sous peu, mais il est en train de changer d'idée. Et on nous montre, en fait, Éric Desrosiers, qui a mené cette enquête et qui a fait ses portraits, on nous montre que finalement, même si on n'est pas tous touchés de la même manière, il reste que, dans leur cas, c'est prudence par rapport, justement, à cette étape de leur vie où ils en sont rendus. On peut pas traiter l'inflation comme on l'aurait fait dans les années précédentes. Dans le Journal de Montréal, j'aimerais bien revenir sur cette question de l'économie. 45% de plus sur l'hypothèque, alors c'est ce que certaines personnes pourraient être amenées à payer compte tenu, évidemment, des taux hypothécaires qui vont monter. Et on en parle, en fait, de façon assez détaillée. Et on nous montre qu'est-ce qui se passe dans une situation où le taux est variable par rapport à un taux fixe. Et on voit que pour certains, ça pourrait justement augmenter pour plus de 45%. En terminant, dans le Journal de Montréal, on parle du roi du Airbnb, c'est comme ça qu'on l'appelle, Francis Davidson, qui a reçu...
Il n'y a pas de problème avec son hypothèque.
Non, lui, il n'y a pas de problème avec son hypothèque parce qu'il vient de s'acheter une somptueuse maison de un peu plus de 9 millions en Californie. Et il faut se rappeler qu'il a reçu un prêt du gouvernement québécois de 30 millions, hein, pour... en fait, c'est parce que...
Oui, mais c'est pas pour acheter sa maison.
Non, c'est sûr que non, c'est sûr que non. En fait, il a une compagnie qui s'appelle Sonder et lui, il se spécialise dans la location de logements type Airbnb. Et bon, pour le gouvernement, ça aide au tourisme d'une certaine façon. Et hier, l'opposition a voulu qu'on arrête ce prêt-là et on a refusé du côté de la CAQ d'en discuter.
Excellent, merci pour le tour de Montréal. On s'en va du côté de l'Estrie avec Monique Kerouac. Bonjour Monique.
Bonjour Yvan, bonjour Francine.
Bonjour.
Alors oui, je commence. Donc quelques nouvelles en rafale sur le plan communautaire. Le projet Jardin Jeunes Entrepreneurs, JJE, du Centre de pédiatrie sociale en communauté, le Tandem de Magog, a ouvert ses portes, oui, vendredi dernier, pour sa première édition. Alors, le projet regroupe 16 jeunes de 11 ans à 14 ans en situation de vulnérabilité qui vivront une immersion maraîchère complète cet été. Alors,
intéressant.
Oui, Yvan, il dispose d'un espace de 10 mètres carrés de terre attitrée pour semer une variété d'herbes et de légumes de saison. Ce qui est formidable, c'est qu'à tour de rôle, les enfants vont se présenter au marché public de Stansted et de Magog pour y vendre leurs produits frais au public. Bien sûr, ils vont gagner des sous avec tout ça. Ça permet donc de travailler des compétences transversales, autant en ce qui concerne leur identité que leur fibre entrepreneuriale et surtout l'entraide. Encore du côté de Magog, une très bonne nouvelle. L'offre du bateau de croisière, le Grand Cru, qui navigue sur le lac Manfré-Magog pour une 12e saison cet été, va être bonifiée au cours de la prochaine année, et ce, grâce à une aide financière de 1,31 million du gouvernement du Québec. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Eh bien, on va consolider les emplois, allonger la période de travail avec des activités hivernales, parce qu'en ce moment, le bateau ne circule pas l'hiver, et solidifier les partenariats avec d'autres entreprises locales, que ce soit des producteurs agrotouristiques, les lieux d'hébergement ou les attraits touristiques. Donc, c'est une très bonne nouvelle.
Puis, est-ce que le monstre du lac Manfré-Magog, lui, est-ce qu'il travaille l'hiver?
Ça dépend si le lac est gelé ou pas.
Ah, d'accord.
Mais on le voit en représentation sculpturale sur le bord du lac, si jamais ça vous intéresse.
Si jamais.
En éducation, le zoo de Granby et la faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke vont renforcer leur partenariat. Le zoo va offrir davantage de stages coopératifs. On sait que c'est une des caractéristiques clés du système d'éducation à l'Université de Sherbrooke. Et ce, aux étudiants de premier cycle, il va offrir un soutien financier aux chercheurs à la maîtrise dont le sujet d'étude porte sur les espèces menacées en Amérique latine. C'est bien sûr que tout ça représente une source de motivation incroyable pour les étudiants. Les projets réalisés dans ces stages cherchent à répondre à de véritables problèmes de conservation et permettent de mettre en pratique ce sur quoi on les prépare durant 3 trimestres antérieurs en tant que gestionnaire de projets juniors. Et finalement, sur le plan culturel, alors la loi sur le statut de l'Arctique,
De l'artiste, qui vient d'être adopté.
Oui, historique, avancée majeure, inespérée. Donc, certains écrivains de l'Estrie ne manquaient pas de qualificatifs pour exprimer leur joie quant à l'adoption par Québec du projet de loi 35 vendredi dernier. Celui-ci vient affirmer que les écrivains sont des artistes à part entière, un pas de géant selon les plumes estriennes sondées par la Tribune. Entre autres, le directeur général et artistique des correspondances d'Eastman, M. Beaulieu, est à même de constater que cette nouvelle loi va aider les auteurs à obtenir une meilleure rémunération des diffuseurs, chose qui n'est pas le Klondike quand même, mais qui pourrait les aider à vivre plus décemment. On va traiter donc tous les artistes sur le même pied d'égalité, parce qu'en ce moment, les artistes de l'UDA allaient chercher beaucoup plus que ceux de l'UNEC. Et voilà, c'était le tour d'horizon de l'Estrie ou des cantons de l'Est.
Très beau tour de la région cherbourgoise et grambyenne. Alors, merci Monique pour ce parcours. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. La semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Du côté du soleil à Québec, on apprend que, vous savez, la firme québécoise qui a produit des vaccins contre la COVID, Medicago, elle veut une aide de Québec pour remplacer le cigarettier Philip Morris, qui est un obstacle à la commercialisation à grande échelle de ces vaccins. Dans une déclaration récente au registre des lobbyistes du Québec, Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, l'actionnaire principal de Medicago, fait état de son intention de faire des démarches auprès d'Investissement Québec, du ministère de l'Économie et de l'Innovation et du Premier ministre en vue de l'élaboration d'orientations par le gouvernement du Québec pour des possibilités de partenariat élargi en matière de recherche et de développement, d'expansion des installations nationales et de partenariat public-privé pour accompagner Medicago Inc. dans le remplacement de l'actionnaire Philip Morris, notamment par le biais d'une participation du gouvernement du Québec dans la société dont la forme et le montant sont évidemment inconnus à ce jour. Vous savez que c'est l'obstacle, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui n'a pas accepté le vaccin de Medicago parce qu'ils ont une politique très stricte de ne pas soutenir des mouvements qui sont soutenus eux-mêmes par des cigarettiers en particulier. Alors, c'est pour ça qu'on veut essayer de faire ce changement-là. Toujours à Québec, la pluie battante n'a pas arrêté, n'a pas arrêté les opposants au projet de tramway. Plus de 200 d'entre eux se sont réunis devant l'Assemblée nationale jeudi soir pour réclamer un référendum sur le plus grand projet de transport collectif de l'histoire du Québec. Du côté d'Ottawa, on a souligné la forte participation du Dr Vera Etchez, E-T-C-H-E-S. C'est l'équivalent de Mylène Drouin à Montréal.
Donc, directeur de la santé publique, d'une d'Ottawa, certaine façon, de cette région.
Qui a reçu les clés de la ville d'Ottawa. Et ce qu'elle a fait, elle a demandé que les clés soient prêtées à chacun de ses collègues. Donc, c'est un peu comme la Coupe Stanley, ils se la passent. Dans son cas, c'est les clés de la ville. Avec ceci, on a fait le tour des unes à Montréal et dans les régions. On prend quelques instants pour prendre notre souffle. Au retour, il y aura consommation avec les gros électroménagers et l'affaire Albert Guy. À bientôt.
Vous écoutez Au quotidien 5e édition avec Yvan Deslauriers et Francine Forgette. Thank you.
Galaxy d'harmonium, mais la version symphonique, je pense que je vous en ai parlé un petit peu plus tôt pendant l'émission. Alors, si vous avez une chance d'aller voir et écouter ça, ne manquez pas ça. Je me tourne vers Serge Hamelin.
Oui, vous êtes bien tourné, oui.
Oui, je me tourne. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. J'ai bien tourné. J'ai une belle tournure.
Ah oui, vous tournez bien.
D'accord. Mm-hmm. Donc, on va continuer la chronique de la semaine dernière sur les gros électroménagers.
Mm, oui.
Toujours en pensant qu'il y a des gens qui déménagent bientôt.
Oh oui.
Mm-hmm. Qui vont laisser leurs vieux électroménagers et qui, j'espère qu'ils s'en sont procurés d'autres déjà, parce que là, peut-être qu'ils vont avoir des difficultés.
Ah oui?
Je sais pas, les approvisionnements, ça a l'air de quoi du côté des électroménagers?
Ah ça, j'en ai pas entendu parler.
OK.
Moi, grâce à Vidéotron, grâce à Visez-Voix.
On s'approche, mais on n'est pas encore
grâce au Canal M, grâce à la chronique que j'anime, grâce à vous et grâce à la revue Protégez-vous,
oui.
Je sais maintenant lequel est le meilleur réfrigérateur.
Oui.
Oui.
Allez-y. Une surprise. Là.
Avez-vous vérifié la largeur de l'espace du réfrigérateur que dans lequel le réfrigérateur sera inséré? Incrusté.
Le trou.
Encastré.
Oui. J'ai déjà fait ça dans ma vie, mais je m'en souviens
bon,
pas.
Bon, ben écoutez, alors vérifiez ça, là, parce que avant d'aller en acheter un, vous avez le choix entre un 24 pouces ou 61 cm, si vous voulez.
Mm-hmm.
Ensuite, il y a le 30 pouces ou 76 cm et la largeur de 33 pouces, 84 cm. Et si là, vous avez un espace fulgurant, il y a la largeur de 36 pouces. Est-ce que ça rentre dans la porte de votre maison? Est-ce que ça contourne les escaliers? Bref.
Oui.
Alors, il faut faire attention à tout ça. Maintenant, les réfrigérateurs. Qu'est-ce qui est important de savoir d'un réfrigérateur? Eh ben,
c'est ça refroidit.
C'est... Alors, il faut porter une attention particulière à la consommation d'énergie, mm-hmm. au bruit et aux commodités de l'appareil. Par exemple, un distributeur d'eau ou de glaçons, des tablettes anti-déversement, un signal sonore de porte ouverte. Ça, c'est très pratique.
On peut avoir ça?
Oui, je l'ai, moi.
Mon Dieu, que ça serait pratique chez nous.
Ah oui, parce qu'on n'oublie pas. On oublie des fois, puis elle est mal fermée aussi, des fois.
Oui, j'ai déjà eu un jeune adulte à la maison qui oubliait ça.
OK. Alors, je parlais aussi...
On l'a fait déménager.
Oui.
Bon. Le jeune adulte.
Ah oui, c'est bon. Ça, j'allais poser comme question. Qui a déménagé?
C'est ça.
Alors, on y va pour le meilleur réfrigérateur et non pas le meilleur frigidaire.
Oui, d'où la surprise.
On l'a dit, c'était M. Crapaud qui a inventé le mot frigidaire. William, de son petit nom.
Il était bien Crapaud.
Le meilleur réfrigérateur de marque, de grandeur 24 pouces, largeur 24 pouces, c'est le Whirlpool. Le WRT11. Alors, il est seulement à 800 $.
Ouais, quand même. Qu'à cette grandeur-là, c'est pour des petits appartements.
Oui, c'est ça. Normalement. Deux pieds, c'est pas là, un petit espace. Et puis ensuite, vous avez le LG dans la largeur 30 pouces. Lui, il est à 1 300 $. C'est plus donné quand même, le LG. Puis le GE, le General Electric, qui est à 1 950 $ pour un 30 pouces.
Rendu à 1 950, là, on peut presque dire 2 000. Hein?
Oui. Oui. Oui, avec l'essence, ça, c'est rendu à 2000.
Okay. Oh, j'ai même pas parlé des taxes.
Il faut pas en parler. Alors, largeur de 33 pouces maintenant, vous avez le GE à 2 000 $. C'est plus donné, les frigos. Hein. Et le LG, le LRF à 1 850 $.
Mm-hmm.
Et puis, est-ce qu'il y en a un bon moins cher? J'en vois pas tellement. Hein.
Non, okay. Donc il faut mettre quand même un peu le prix. L'autre chose qui me frappe, c'est que j'ai pas entendu le nom frigidaire.
Non. Alors, un réfrigérateur qui s'appelle pas frigidaire.
Il est même pas dans votre liste.
Incroyable, hein? Alors, on en a testé des frigos et les marques frigidaires ne sont pas dans les réfrigérateurs. C'est drôle, hein?
Mon Dieu,
c'est à n'y rien comprendre, je vous expliquerai ça un jour.
Oui, vous reviendrez.
La semaine prochaine.
Oui, c'est ça.
OK, là on va tomber dans les lave-vaisselles.
Si
vous n'êtes pas marié, vous avez besoin d'un lave-vaisselle.
Si vous n'êtes pas marié, vous avez un petit appartement, puis vous venez de vous acheter un réfrigérateur de 30 pouces,
oui.
Vous n'en avez pas de lave-vaisselle.
Non.
Non.
Bon, d'accord.
Vous lavez la vaisselle avec
non,
votre...
puis peut-être que aussi DoorDash va souvent chez vous. Je sais qu'il y a, beaucoup de livraisons.
Avec DoorDash, là, si vous commandez un DoorDash pendant un mois, là, vous avez un lave-vaisselle gratuit avec ça.
Probablement. Ouais,
ça coûte une fortune. Ça n'a pas de bon sens.
Ça, c'est un bon sujet de chronique, mon cher, au niveau de la consommation.
Alors, moi, j'en ai un bon ici, un bon lave-vaisselle. Il est possible d'acheter un lave-vaisselle performant et fiable pour 1 000 $ ou moins, eh bien, c'est le Bosch à 1 000 $.
Et le bruit, est-ce qu'on en parle? Parce que ça, c'est important, Serge.
Oui, alors le bruit, je vais vous le dire, moi, celui qui fait le moins de bruit, c'est le Thermador à 1 900 $. Mais celui qui fait du bruit, qui est bien, qui fait pas de bruit, là, c'est le Bosch à 850 $. Et moi, je vous suggère le Whirlpool à 600 $. Il a quand même une note de 79%, alors que le meilleur des meilleurs est 83%. Donc, il n'y a pas une grande différence. Et la différence est de 600. Il est vendu à 600 et l'autre est vendu à 1000. Donc, vous sauvez 400 $ pour faire le même travail.
Est-ce qu'il est bruyant?
Non, ça va. Le bruit, ben, c'est acceptable.
Acceptable.
C'est pas bon.
Ça dépend de, dépend de qui.
Ah oui, bon, d'accord. Alors, celui qui est le moins cher et qui fait du bon bruit, ou pas de bruit.
C'est de la musique, ça?
Oui, c'est de la musique, c'est doux pour les oreilles, d'entendre sa vaisselle.
Dixie d'harmonium.
Oui. Ah, c'est bon, la musique tantôt, c'est génial. Ça réveille bien le matin, ça.
Merci. Wow. Hein.
Ouais, moi, ça m'a mis en forme, il faudrait que je la réentende. Alors, c'est 850 $ pour le Bosch. Le moins cher ici, qui est à 80%. C'est bon?
Oui.
Alors,
oui.
On y va dans le Bosch, et puis il y a le Whirlpool à 600 $, qui fait un bruit bon, qui est quand même acceptable, on dit. Alors, et ensuite de ça, on tombe dans les laveuses. Et là, parmi les laveuses, eh bien, il y a des laveuses frontales.
Oui.
Malheureusement, les laveuses frontales, quand c'est parti, vous ne pouvez pas mettre le petit morceau de linge que vous avez oublié.
Non, c'est ça.
Sinon,
je vais vous contredire là-dessus.
Ah, contredisez-moi.
Ah, certainement. Regardez bien le fonctionnement parce qu'il y a généralement un petit piton qui vous permet d'arrêter le mouvement. Il faut quand même être un petit peu patient. Hein? Ça prend quelques secondes.
D'accord.
Et ensuite, on peut ouvrir la porte. Il y a un petit message qui dit « Vous pouvez ouvrir la porte et vous pouvez à ce moment-là. » Alors, vous essayerez ça, Serge. Vous nous en reparlerez aussi de la semaine prochaine.
Il n'y a pas d'eau qui coule sur le plancher.
Pas du tout. Il y a tellement peu d'eau dans ces...
Bon, ben écoutez, tant mieux. Tant mieux. C'est parce que dans la revue Protégez-vous, on ne parle pas du piton.
plaignez-vous auprès de Protégez-vous.
On parle du serpent, hein, c'est
ça? Bon, alors peut-être que j'ai mal lu, peut-être que j'ai pas tout lu. Alors la meilleure des laveuses, là, on y va, eh ben, c'est pas une balayeuse, c'est l'Electrolux. Et puis là, il y a LG aussi, ça c'est les chargements frontales, puis à chargement frontal, mais des grandes capacités, c'est LG aussi, puis General Electric. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous en avez une ici à 550 $ et tout le monde la connaît. C'est la English. Elle, c'est à chargement par le haut avec agitateur. La English. Est-ce que j'ai le temps pour autre chose?
Très peu.
Très peu? Bon, ben, écoutez, on va arrêter cela parce que je me sens stressé.
Mais, non, vous ne devriez pas.
Vous ne devriez pas, mais j'ai insisté parce que moi, le frontal, moins d'eau. C'est mieux pour la petite planète.
Non,
Et je suis tellement planète.
Non, mais tant mieux. Mais vous m'avez...
convaincu?
Vous m'avez appris quelque chose à propos du piton.
Bien, allez-y sur le piton si jamais vous avez une frontale.
D'accord.
Merci, M. Hamelin, pour ces conseils. Que je comprends que si on veut un réfrigérateur, c'est pas Frigidaire.
Ouais.
Si on veut une laveuse, c'est Inglis. En tout cas, ça n'est rien qu'on comprend.
Mais c'est correct. Renseignez-vous.
D'accord.
OK. Bye.
C'est quand ça va mal dans la vie, puis que t'as juste le goût d'en finir, il te reste juste un très bon ami pour te retenir. C'est quand la fille que t'aimes veut vraiment rien savoir de toi, dis-toi que la vie est courte mon gars, tu peux l'avoir entre tes bras. T'es mon amour, t'es ma vérité, seulement les mots doux pourraient l'amener.
À tes côtés, j'ai l'impression que mon intérieur va sortir en éruption. Tellement d'amour, tellement d'ennui, tellement de choses à te dire, pour le meilleur et pour le pire. J'aimerais tellement retourner en enfance et revoir la belle vie qu'on avait. On lançait des roches sur des maisons sans se soucier des conséquences. T'es mon amour, t'es ma vérité. Seulement les mots doux pourraient l'amener à tes côtés. J'ai l'impression que mon intérieur va sortir. Et c'est toi que je veux dans ma vie. Et c'est toi que je veux dans ma vie.
C'était Bronco, pour le meilleur et pour le pire.
Merci. Alors maintenant, on a, je crois, Marcel Dugas au bout du fil.
Bonjour, je suis
bon.
Là.
Bonjour Marcel, qui va nous parler de l'affaire Albert Gay. Je vous avoue qu'avant de lire votre message, je me disais, qui est Albert Gay? Et après l'avoir lu, je me suis dit, et qu'on le connaît, ce monsieur.
Ben oui.
Alors expliquez-nous tout ça, comment se fait-il qu'on le connaît tant que ça?
Il se peut que ça sonne une cloche à beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont des réminiscences du début des années 80, du crime d'Ovide Plouffe de Roger Lemelin. Ça avait été inspiré de cette histoire-là, cette affaire Albert Gay, qui est une histoire faite de première et de dernière. Ça débute avec le premier attentat contre un avion civil dans l'histoire nord-américaine, et ça se termine 4 ans plus tard par la dernière exécution d'une femme au Canada. Au matin du 9 septembre 1949, un avion DC-3 de la Canadian Pacific Airlines, qui était la division aérienne des chemins de fer du Canadien Pacifique, part de Montréal à destination de la Côte-Nord. L'avion fait escale à Québec, quelques passagers descendent, d'autres montent. L'avion repart et quelques minutes après le décollage, une bombe placée à bord explose et l'avion va s'écraser dans une zone boisée à flanc de montagne au lieu-dit du saut au cochon, entre les municipalités de Saint-Joachim et de Petite-Rivière-Saint-François, à l'est de Québec, les 19 passagers et 4 membres d'équipage périssent. L'affaire cause tout un émoi, inutile de le mentionner, et au lendemain de la tragédie, le quotidien de Québec, Le Soleil, montre les photos de quelques-unes des victimes, et le hasard a voulu que la première photo que les lecteurs et lectrices ont pu voir ce matin-là, c'est celle d'une dame identifiée à ce moment-là en tant que Mme J.A. Gay de Québec. Mme Gay, de son nom de jeune fille Rita Morel, était, on l'apprendra plus tard, la personne visée par l'attentat. Les premiers rapports dans les journaux ne parlaient pas de bombe à ce moment-là. On disait l'avion semblait mal fonctionner, ça a frappé un escarpement rocheux, mais les témoins disaient clairement avoir entendu une explosion avant que l'appareil ne s'écrase. L'enquête du coroner va conclure que l'accident avait été causé par une explosion de nature inconnue. C'est le mieux qu'on pouvait faire à ce moment-là, et l'affaire va tranquillement disparaître des premières pages des journaux. Le cycle des nouvelles, on sait comment ça fonctionne. Mais le Canadien Pacifique, qui craignait de se faire poursuivre par les victimes de la tragédie, et la police, poursuivait discrètement l'enquête. Et 2 semaines après la chute de l'avion, Le Soleil va titrer « Aboutissement sensationnel du drame aérien de saut au cochon ». C'est un drôle de choix de terme, sensationnel, dans un cas comme celui-là. 2 personnes de Québec détenues. On avait procédé à l'arrestation d'Albert Gay, époux de Mme J.A. Gay, dont je vous parlais il y a un instant, et d'une dame, Marguerite Ruet-Pitre. Albert Gay, il est au début de la trentaine au moment des faits. Il est commerçant de montres et de bijoux. Il partage son temps entre la Côte-Nord et Québec. Il fait la connaissance d'une jeune fille, elle est encore mineure à ce moment-là, et en tombe follement amoureux. Seul problème, il est marié et père d'une fillette. Il va donc passer une partie de l'année 1949 à chercher un moyen de se débarrasser de son épouse Rita Morel pour pouvoir refaire sa vie avec sa concubine. Un ami est venu témoigner au procès qui s'était fait offrir 500 $ par gué pour empoisonner Rita Morel au printemps, ce qu'il avait refusé de faire.
Donc, c'était pas son premier essai, si on comprend bien.
Voilà, c'était un plan B, finalement, l'attentat. Il a décidé, je vais envoyer ma femme par avion à Bécomo, soi-disant pour aller chercher un colis. Je fais placer une bombe et voilà, il pouvait devenir veuf et ensuite, tranquillement, se remarier. Il va profiter de l'aide de deux connaissances pour mener son plan à terme. D'abord, Marguerite Ruet-Pitre. C'est une dame dans la quarantaine qui avait une réputation assez peu enviable dans la basse ville de Québec. Elle connaissait Guy depuis plusieurs années et lui devait 600 $, ce qui expliquerait son implication dans l'affaire. C'est elle qui va acheter la dynamite et les autres composantes nécessaires à la confection de la bombe, et on confie ensuite le tout au frère de Ruet-Pitre, Généreux Ruet, horloger. C'est lui qui aurait assemblé la bombe, en échange, semble-t-il, d'un montant d'argent assez modeste. L'engin doit exploser à 10h44 du matin, au moment où, selon les savants calculs d'Albert Gay, l'avion se trouverait au-dessus du fleuve, histoire de laisser le moins de traces possible. On met la bombe dans une boîte adressée à un Alfred Plouf imaginaire de Bécomo, et c'est Marguerite Ruet, encore elle, qui est chargée d'aller porter le colis à l'aéroport pour le faire envoyer sur la côte nord par l'avion à bord duquel Mme Gay prendra place. La bombe va exploser à l'heure dite. L'avion s'est écrasé et Guy aurait peut-être pu s'en tirer, épouser sa maîtresse et profiter de sa nouvelle fortune, parce qu'au moment d'acheter le billet d'avion pour sa femme, il a poussé l'audace jusqu'à prendre une assurance de 10 000 $ sur la vie de Rita Morel. C'est la compagnie aérienne elle-même qui offrait ça. Pour 50 sous, vous aviez une assurance en cas de décès du passager. Mais il y avait plusieurs failles dans le plan d'Albert Gay. La première, et peut-être la plus importante, étant que l'avion a été retardé de quelques minutes au moment du décollage, ce qui fait que la carcasse est tombée sur la terre ferme et non dans le fleuve. On a pu conclure que l'explosion de nature inconnue était survenue dans la soute où on avait placé le colis destiné à un résident fictif de Bécomo. De là, on a pu identifier Marguerite Ruet-Pitre comme étant la personne qui était allée porter le paquet. On l'a confrontée et elle a raconté ce qui s'était passé, ou à tout le moins, sa version de ce qui s'était passé. Il est arrêté, il est condamné à être pendu au terme de ce que le Soleil appelait le procès le plus sensationnel, encore ce mot-là, dont aient jamais été saisis les tribunaux de Québec. D'ailleurs, certains jours d'audience, il y a des curieux qui ont fait la file toute la nuit pour espérer avoir une place dans le tribunal. Guy accepte assez stoïquement sa condamnation. Il n'a même pas voulu en appeler du jugement et il aurait dit à ses gardiens au moment de subir la peine capitale « au moins je meurs célèbre ». Voilà, donc il n'avait pas tout perdu, je présume. Mais Guy, qui n'avait pas parlé pendant son procès, va vider son sac alors qu'il se trouvait dans le couloir de la mort et va contredire la version donnée par ses complices. Les deux s'étaient présentés comme complètement innocents. Généreux Ruet n'a pas nié qu'il avait fabriqué le mécanisme de la bombe, mais Guy lui aurait fait croire que c'était pour essoucher un terrain qu'il venait d'acheter sur la côte nord. Et sa sœur disait s'être fait servir une explication semblable pour aller acheter la dynamite et pensait que le colis qu'elle avait été porté à l'aéroport, c'était une statue. Guy dit que tout ça, c'est faux, qu'ils étaient au courant de ce qui se tramait et les complices ont été, à leur tour, accusés de meurtre. Et je ne sais pas dans quelle mesure on peut croire qu'ils étaient au courant de rien, tout particulièrement Marguerite Ruet, qui était bien au fait des problèmes conjugaux d'Albert Gay. Elle avait d'ailleurs pris la maîtresse de Gay chez elle comme chambreuse. Pouvait-elle vraiment croire qu'Albert Gay allait effacer une dette de 600 $ qu'elle avait envers lui pour faire une commission et aller porter un innocent paquet à l'aéroport? Ça semble un peu tiré par les cheveux. Mais une chose est certaine, les jurys n'ont pas cru les Ruet qui ont tous les deux été condamnés et pendus pour leur implication dans l'attentat, ce qui mettait fin à une saga qui a duré 4 ans. Saga qui intéresse encore aujourd'hui grandement les amateurs et amatrices de true crime, n'est-ce pas, c'est tellement en vogue. s'inspirer Roger Lemelin, je le disais au départ. Il avait été voisin du couple Albert Guy-Rita Morel. Il avait assisté aux funérailles de Rita Morel avant qu'on sache ce qui s'était vraiment passé. C'est ce qui l'a amené à ajouter une suite aux aventures de la famille Plouffe, qui était inspirée, mais pas complètement, de cette histoire-là. Et aux dernières nouvelles, on peut encore se rendre sur les lieux de l'écrasement. Il y a une bonne partie de la carlingue de l'avion qui est toujours sur place. C'est dans un coin assez isolé, c'est difficile d'accès. C'est ce qui fait qu'il reste encore quelque chose après toutes ces années, probablement. Mais si vous décidez d'aller voir ça de vos propres yeux, je ne peux que vous encourager à faire preuve de civisme. N'est-ce pas? C'est une relique de notre histoire. Quand j'y suis allé dans les années 1990, il y avait déjà beaucoup de gens qui avaient inscrit leurs initiales sur le fuselage. Chaque année, on perd des pièces, des morceaux de l'appareil. Les photos, Francine, les vidéos, ça fait d'excellents souvenirs.
Exactement. Pourquoi pas? Oui, c'est une bonne suggestion parce qu'effectivement, c'est très dommage de voir quand on graffite sur des monuments comme ça ou d'autres édifices qui sont patrimoniaux. Il y a aussi le film, hein, Marcel. Il faut se rappeler qu'il y a eu un film qui a été fait sur ce sujet, Le crime d'Ovide Plouffe, et qui nous a permis de découvrir un grand acteur qu'on a beaucoup vu par la suite, Gabriel Arcan.
Tout à fait. Il a gagné plusieurs prix, d'ailleurs, d'interprétation pour son rôle là-dedans. Mais c'était basé sur l'affaire, mais Ovide Plouffe, lui, n'avait pas commis le meurtre en question. Il n'était pas coupable dans l'affaire, même s'il était inspiré d'Albert Guy.
Tout à fait. Il était innocent, très voilà. Innocent. Du début jusqu'à la fin, si je me rappelle bien. Alors, merci beaucoup, Marcel, et on se retrouve à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine.
Vous aussi.
Alors, merci Yvan. Comme je l'avais annoncé d'emblée, en fait, je vais vous parler d'un... En tout cas, moi, je trouvais ça intéressant parce que cette chronique qui a été publiée dans un écran de la Presse Plus, une chronique de Marie-Ève Fournier, je trouvais ça intéressant parce que, semble-t-il, qu'il y a un régime d'enregistrer d'épargne invalidité auquel un bon nombre de personnes qui y auraient droit... en fait, se servent pas de ce droit-là. On dit qu'il y a presque la moitié des personnes admissibles, donc 46%, qui ignorent de quoi il s'agit. Alors, ça existe depuis près de 15 ans, et c'est pourquoi on en parle aujourd'hui du REEI, c'est qu'en fait, il y a une nouvelle plateforme, il y en a une qui existait, qui s'appelle Finandicap, F-I-N-A-N-D-I-C-A-P, où on peut avoir davantage d'informations et s'inscrire aussi. Mais en même temps, il y en a une autre plateforme qui a été lancée cette semaine, et c'est ce qui a amené finalement à en parler dans la Presse Plus. Le nom de l'autre plateforme, est Terry, T-E-R-R-Y, en l'honneur de l'athlète Terry Fox. Il y a déjà 600 comptes qui sont ouverts, puis le service, il est gratuit. Ce service-là aussi peut être obtenu auprès de banques. Les banques traditionnelles, souvent, vont ouvrir des comptes REEI et pour certains, pas besoin de se déplacer. On parle entre autres de la banque BMO qui offre le service par téléphone. Il y a, semble-t-il, au Québec, 1 million de personnes qui ont une incapacité qui leur permettrait justement de profiter de ce régime. C'est un peu un régime, d'après ce que je comprends, là, qu'on peut comparer à un REER ou encore à un régime épargne-étude. Alors, allez voir, googlez. Je vous invite souvent à googler, mais c'est souvent la façon la plus facile de se rendre au but. Alors, Finandicap ou encore Terry. Et moi, je me dis que ça vaut au moins la peine d'aller s'informer et de voir ce qu'il y en est.
Bien sûr. Surtout en ces temps où tout coûte si cher, là, je pense que ça vaut la peine. Donc, on prend une petite pause et on revient avec la chronique techno de Francine Forget et on va parler de la Fondation des aveugles du Québec.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Merci, Hélène Denis, de nous présenter ainsi.
Ben, c'est nous, on se reconnaît.
Oui, on se reconnaît. Non, c'est que hier, je participais à l'émission d'Hélène, puis je lui dois des excuses, je vais le faire jeudi prochain. Mais je soulignais qu'il y avait Nicolas, qui était à la régie hier, Monique et moi. Alors, je disais à Hélène, il n'y a que vous qui ne faites pas partie de l'émission 5e édition. Puis là, elle m'a envoyé un texto en disant « C'est pas vrai, c'est moi qui fais l'annonce de l'émission. » Alors, on était tous là. Francine, on s'en va du côté de la technologie.
Oui.
Et vous allez parler des alertes sur nos téléphones. Puis vous avez dit tantôt que vous allez parler, entre autres, des alertes Amber, les alertes qui nous font sauter quatre pieds dans les airs à toutes sortes d'heures du jour et de la nuit.
Effectivement. À toutes sortes d'heures du jour et de la nuit, parce qu'il n'y a pas moyen de s'en... Il n'y a pas moyen hein, de passer outre. Quoiqu'il y a des petits problèmes. Écoutez, cette semaine, on a lancé l'alerte Silva. L'alerte Silva,
oui, c'est
un projet pilote pour le moment qui va se dérouler dans trois régions, trois MRC. Alors, il y a Joliette, l'Abitibi, là, c'est la vallée de l'Or, que ça s'appelle le MRC dans ce coin-là, et au centre du Québec. Donc, c'est un peu la même chose que ce dont je vais vous parler, mais je voulais le souligner parce que cette alerte Silva va servir à retracer des aînés disparus qui ont des problèmes neurocognitifs. C'est la ministre Blais qui a annoncé ça cette semaine. Maintenant, on a eu une alerte récemment, qui a suscité beaucoup de questions. Premièrement, parce qu'elle portait sur l'environnement. Et jusqu'à maintenant, on était habitué de recevoir sur nos cellulaires des alertes pour des recherches d'individus, d'enfants, tout ça, qui étaient perdus. Mm-hmm. Là, dans ce cas-ci, c'était concernant la météo.
Oui, et c'est vrai.
Et ça a été un petit peu chaotique d'après ce qu'on comprend. Ben moi, je peux vous dire, d'après ce qu'on comprend, je peux vous dire que chez nous, on l'a vécu. Alors moi, je l'ai reçu, mais pas mon mari. C'est un peu étonnant, mais c'est ça. Et c'était...
Donc, il y avait un orage juste au-dessus de votre tête.
Exactement.
À vous.
C'est la conclusion à laquelle nous en sommes venus. et dans votre clairvoyance, vous avez tout de suite vu que c'était exactement ça qui s'était produit. Sérieusement, ce qui s'est passé, c'est que il y a des décalages parfois. Ça, c'est sûr qu'il y a des décalages. Et dans ce cas-là, mais ce qu'on comprend, c'est que ça se peut que c'était la première fois que c'était lancé, que pour toutes sortes de raisons qui peuvent être technologiques, soit de la part de celui qui a émis l'alerte ou encore du téléphone. Donc le téléphone, c'est pas nécessairement la marque comme telle, mais plutôt le fournisseur de service. Alors, ça peut arriver. Au début, il faut se rappeler l'alerte Amber. Il y a quelques années, on a fait des essais et on a constaté que parfois, il y avait des gens qui auraient dû être dans la liste et qu'ils n'y étaient pas. Mm-hmm. Le samedi 21 mai, c'était la première fois que Environnement Canada envoyait une alerte et ça ne sera pas la dernière, puisque on ose espérer qu'il n'y en aura pas tant que ça, mais qu'en cas de vent fort de 130 km/h, de tornade ou de grêle qui dépasserait la taille d'une balle de baseball, tant qu'à moi, on pourrait en prendre aussi des plus petits. On va recevoir ce type d'alerte. Mm-hmm. Et c'est vraiment essentiel parce que si vous vous rappelez, on vous disait de vous mettre à l'abri immédiatement. Et le 21 mai, entre autres, on cite dans cet article de Lila Dussault, on cite le cas de triathlon qui était à l'entraînement au lac Moore dans les Laurentides et à ce moment-là, ils ont dû agir rapidement. Sur les 60 personnes, c'est pas tout le monde qui a reçu l'alerte, donc il y a eu des failles là, mais disons que comme ils étaient en groupe et tout ça, ils ont pu tous se mettent à l'abri et ça a été très, très bénéfique. Si je regarde moi autour de chez nous, je voyais très bien que les gens continuaient leurs activités comme si rien n'était et probablement qu'ils n'étaient pas tous, qu'ils n'avaient pas tous été oubliés. Alors, je pense qu'on s'est dit c'est peut-être pas si important que ça. Ça vient d'Environnement Canada, mais il va falloir le prendre en compte maintenant sérieusement. En fait, toute alerte Amber devrait être prise vraiment au sérieux. On se questionne toujours ces choses-là. Est-ce que ça respecte mon droit à la vie privée? Hein? Parce que mon numéro de téléphone, mon identifiant, ma localisation, c'est des informations personnelles qui sont protégées, mais il y a des exceptions. Et en situation d'urgence, c'est-à-dire une situation qui met en danger la vie, la santé ou la sécurité d'un individu, bien à ce moment-là, c'est bien dommage, mais disons que on passe outre cette protection des renseignements personnels pour notre bien-être, pour notre bien-être. Une autre question qu'on se pose, est-ce que on peut en recevoir n'importe quand? Je sais pas la nuit ce que vous faites avec votre téléphone, mais moi, il est toujours en mode silencieux, n'est-ce pas?
Oui, oui.
Et je peux vous dire que on reçoit l'alerte quand même. Donc, c'est important là qu'il n'y ait pas justement de blocage qu'on puisse faire de notre part. Maintenant, je change complètement de sujet. Je retourne à mon dada environnemental d'aujourd'hui.
Ben oui.
Deux fois plus polluant que l'aviation. Ici, on parle du numérique. En général.
Ah oui.
C'est un texte qui est paru sur RTS CH Info. Alors, en fait, c'est en Suisse. En Suisse, où il y a un chroniqueur régulier qui est à une matinale du matin sur une radio et qui invite à prendre conscience de l'ampleur des phénomènes liés à l'utilisation du numérique. Il attire notre attention sur le fait qu'à chaque fois qu'on émet un petit like, là, un petit j'aime, qu'on partage quelque chose sur les réseaux sociaux, qu'on conserve un email ou encore qu'on consomme un film ou de la musique, toutes ces actions qui sont en apparence très anodines, ça va générer une pollution. Et une pollution qui est plus importante que celle qui est émise par le secteur aérien. On dit que le numérique va représenter 4% des émissions de gaz à effet de serre, puis qu'il y a un relatif consensus à ce sujet-là, alors que du côté de l'avion, ce journaliste spécialisé, Guillaume Pitron, ce serait autour de 2,4%.
Quand même.
C'est quand même, oui, c'est quand même assez important. Et le numérique va rester une source de pollution, non seulement à cause de notre consommation comme telle, de nouvelles, etc., mais aussi, d'un autre côté, parce qu'on les change régulièrement.
Oui.
Alors, on a comme deux objets qui font qu'on consomme beaucoup en utilisant toutes ces...
Donc, il y a le bidule puis le remplacement du bidule.
Exactement. Et enfin, une petite nouvelle. On va construire au Salvador, à flanc d'un volcan, une Bitcoin City, donc une ville Bitcoin. Et c'est pas parce que la ville va être juste avec des Bitcoins, mais c'est parce qu'on va se servir de toute cette énergie gaspillée finalement, parce que vous savez que la validation des bitcoins se fait à travers un ensemble de réseaux,
une chaîne,
c'est ça, alors le blockchain comme on dit en bon français, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'énergie qui est finalement la perte d'énergie à côté du Conchagua. Conchagua, c'est le volcan qui n'est plus en activité comme tel, même s'il émet encore des fumerolles. On va construire une ville et à ce moment-là, ben, c'est comme... en fait, c'est une récupération qui peut être propice, en tout cas, à réduire les gaz à effet de serre et à mieux protéger l'environnement.
Puis ça peut être un exemple à suivre dans d'autres villes avec d'autres domaines.
C'est pas le premier projet, semble-t-il. C'est pas le premier projet. On en parle dans une revue d'architecture et de design. La source, c'est Dezen, D-E-Z-E-E-N.
Merci beaucoup, Francine.
À quoi ça sert d'être sur la terre. Si on peut même pas virer le monde à l'envers. J'étais peinard, pas le goût de mettre un pied dehors. Quand t'as téléphoné, j'étais déjà plutôt sonné. Et pas trop tard, trop tard pour se virer de bord. On pourrait foutre la merde, sortir les squelettes du placard, aller s'accrocher quelque part de l'autre côté. Enfin libéré de la gravité, de la société. À quoi ça sert d'être sur la terre si on peut même pas virer le monde à l'envers? À quoi ça sert d'être sur la terre si on peut même pas virer le monde à l'envers? Et j'ai grand ouvert, je regarde ma vie passer. Ce que j'ai laissé derrière, faudrait peut-être j'aille le ramasser avant de regretter ce que j'aurais pu changer. Pareil que le monde est ce qu'on en fait foutu. Je te le répète en français, dis-moi ce qu'il faut faire pendant qu'on est là sur terre pour être un peu moins fonctionnel et un peu plus humanitaire. J'ai pu faire la fête, d'être à moitié honnête. Si tu pars dessus, peut-être que je vais traverser la tempête. À quoi ça sert d'être sur la terre si on peut même pas virer le monde à l'envers? À quoi ça sert d'être sur la terre si on peut même pas virer le monde à l'envers? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Sage se taire, autant s'y faire, ou quitter la terre. Qu'est-ce qu'on va faire avant de tourner en poussière? Guitar. Oh. Hey, je t'enverrai bébé dans un million d'années. Pour m'empêcher de me demander si tout ça va changer. Avec ma guitare, même désaccordée, il sera peut-être trop tard, mais au moins on aura chanté. À quoi ça sert d'être sur la terre si on peut même pas virer le monde à l'envers? À quoi ça sert d'être sur la terre si on peut même pas virer le monde à l'envers? À quoi ça sert d'être sur la terre si on peut même pas virer le monde à l'envers? À quoi ça sert d'être sur la terre?
C'était les respectables, virer le monde à l'envers.
Et je peux dire que ça virait le monde à l'envers dans le studio ici. On tapochait sur des drums qu'on a imaginés. Alors, on s'en va du côté de la Fondation des aveugles du Québec, qui s'est donné comme mandat de soutenir les personnes aveugles et ayant une déficience visuelle dans les domaines de l'habitation, des loisirs et de la vie communautaire. Je parle avec Alexandre Saint-Arnaud, qui est adjoint à la programmation et qui va nous parler de ce qui se passe dans leur fondation du côté de la fin de semaine qui commence et de la semaine à venir. Bonjour, Alexandre Saint-Arnaud.
Bonjour, bonjour à vous.
Alors, allez-y. Donc, qu'est-ce qui se passe chez vous?
Écoute, il y a plusieurs choses qui se passent là, en ce moment. Là. La Fondation est très active, mais en fin de semaine, on s'en va dans le coin de Hofford pour aller animer à peu près 45 jeunes handicapés visuels sur une base de plein air. Donc, on va faire des activités de sport nautique, du canot, du kayak, du rabasca, des parcours sportifs, de libertisme. En fait, c'est pour l'Association des parents québécoises, des parents d'enfants handicapés visuels, donc l'ACPEV,
oui.
Qui est un grand partenaire avec la Fondation.
Mm-hmm.
Donc, pendant que les parents sont en assemblée générale, durant la journée, nous, on prend tous les jeunes et on les emmène sur le camp Massawippi. Donc, je viens de vous nommer, on fait des activités donc de type camp de vacances. Donc,
est-ce que c'est une association que vous pratiquez régulièrement avec les parents?
En fait, à chaque année, il y a cette assemblée et on les aide pour prendre les jeunes sous notre aile et puis faire passer une journée d'activité inoubliable pour les jeunes.
Oui, sûrement.
Donc, à tous les années. Puis, dû à la COVID, ça fait 2 ans que ça ne s'est pas passé. Donc là, on revient en force cet été, là, demain.
Est-ce que vous avez eu de la difficulté à vous trouver des moniteurs qualifiés pour pouvoir mener cette activité-là? Je pose la question parce que dans beaucoup de domaines, on a de la difficulté à trouver des jeunes pour, entre autres, les sauveteurs.
Oui, en fait, c'est drôle que vous m'en parlez parce que nous, je vais toucher du bois en ce moment. On a eu de la facilité à trouver nos moniteurs. C'est rare de ce temps-ci, c'est des perles rares, là, des moniteurs qui veulent travailler n'importe où. Mais nous, on va toucher du bois, ça va bien. On a environ 20 moniteurs qui vont accompagner notre groupe là, en fin de semaine.
Et je pense que ces moniteurs-là vont avoir d'autres fonctions pendant l'été. On va s'en reparler probablement dans un mois quand on va vous reparler. Mais vous avez des activités pendant tout l'été.
Oui, tout l'été, nous, ça commence dès lundi prochain. Mes moniteurs tombent en formation. Donc, des formations d'animation, des formations de communication. Bref, une panoplie de formations qui vont l'être utiles pour commencer les camps de jour qui commencent le 28 juin prochain et puis pendant 7 semaines d'activités. Donc, une panoplie d'activités, on va avoir la chance d'en discuter. Mais c'est des activités hors du commun. C'est vraiment une panoplie d'activités vraiment, vraiment géniale là, qu'on offre à nos jeunes.
Et je reviens du côté des moniteurs. Est-ce que ce sont des jeunes qui vous reviennent année après année? Et évidemment, avec la pandémie, là, il y a comme eu un trou, là, mais est-ce que c'est des retours?
Oui, c'est des retours souvent. Je vous dirais que cette année, on a la moitié de nos moniteurs qui reviennent à chaque année. Et puis l'autre moitié, c'est des annonces que je publie sur les universités et dans les cégeps. Donc, on a vraiment un bon nombre d'accompagnateurs bien formés. On est très contents de ça.
Ben, je suis très impressionné. Bravo. Alors, donc, plusieurs jeunes qui vont connaître une fin de semaine dont ils vont parler sûrement et des parents qui vont avoir un peu de répit. Je pense que vous allez faire beaucoup de bonheur en fin de semaine.
Oui, oui. Puis, tu sais, c'est aussi ça, aussi la fondation, c'est que c'est un clé en main. C'est un service clé en main. Le parent, il laisse son jeune et puis nous, on fait passer une journée. Je pense que les jeunes, ils savourent chaque instant avec nous, puis ça les fait du bien tant au niveau du jeune et au niveau des parents. Comme ça, les deux sont contents.
Merci beaucoup, Alexandre Saint-Arnaud, qui est adjoint à la programmation à la Fondation des aveugles du Québec. Et on se reparle un peu plus tard cet été.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.
J'aime voir chair indolente de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, miroiter la peau sur ta chevelure profonde, aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns. Un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain, des yeux où rien ne se révèle, de doux ni d'amer, sont de bijoux froids où se mêlent l'or avec le fer. Devoir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton, sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Ton corps se penche et s'allonge,
comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents. Je crois boire un vin de bohème amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème étoile mon cœur.
C'était Pierre Lapointe, Le serpent qui danse.
Oui, ça fait partie de son album L'heure mauve qui a été créé pour accompagner l'exposition de Nicolas Parti au Musée des beaux-arts de Montréal qui se prolonge jusqu'au 16 octobre. Et Pierre Lapointe, mais il va faire partie des Franco en fin de semaine. Francine, je pense que je t'ouvre la porte pour la fin de semaine, d'ailleurs.
Ah oui, et les grandes ouvertes et on ne sait pas où donner de la tête, c'est le cas de le dire.
C'est vrai.
Écoutez, je vais commencer par une petite activité qui m'apparaît bien importante parce qu'on a parlé de cette exposition des Impatients à la Galerie La Poste,
oui.
1700 rue Notre-Dame-Ouest. Et en fin de semaine, c'est gratuit, mais il faut réserver nos places. Il y aura une discussion qui va être animée sur cet art qu'on peut voir, qui a été créée par des artistes des Impatients. Elle est animée par une chercheure émérite de l'Institut Douglas de Montréal, Hélène Corinne. Il y a Matteo Esteves, qui est un créateur impatient qui fait des choses extrêmement intéressantes, et aussi un grand artiste multidisciplinaire, François Morelli. Alors, psychanalyse, psychologie et art. Si jamais ça vous intéresse, 12 juin à 14 heures, il faut quand même réserver. J'enchaîne avec muralfestival.com. Donc, vous allez retenir ce site parce que j'aurai pas beaucoup de temps pour vous en parler autant que j'aurais voulu. Mural, c'est un festival qu'on commence à connaître parce que ça fait plusieurs années qu'on peut, à cette période de l'année, déambuler sur la rue Saint-Laurent, à peu près entre Sherbrooke et Mont-Royal, et voir ces magnifiques murales peint sur le côté des édifices. Je vous invite à aller faire un tour parce que c'est beau à voir. C'est intéressant parce que souvent, surtout au début de l'activité qui dure du 9 juin pour 11 jours. Au début, on voit encore des artistes à l'œuvre qui n'ont pas terminé leurs œuvres. C'est extrêmement intéressant parce que c'est quelque chose de voir ça, hein, ces artistes qui travaillent sur des murs avec un peu comme avec des, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas les plateformes pour les laveurs de vitres puis tout
oui,
ça
oui,
là, bon,
oui.
Alors
les
c'est avec des pinceaux qui sont très lourds sûrement, c'est et qui vont dans des détails, c'est vraiment fascinant, mais c'est aussi Saint-Laurent. Saint-Laurent avec ses odeurs et généralement il y a toutes sortes de cuisines. Des kiosques sont installés et ça vaut la peine d'y aller. Il y a aussi un festival payant avec des spectacles, mais disons que l'essentiel pour moi, c'est vraiment d'aller déambuler sur la rue Saint-Laurent.
Est-ce que c'est piétonnier à cet endroit-là?
Oui, à ce moment-là, oui, on ferme la rue. Oui, on ferme la rue.
Oui,
c'est ça. Non loin de là, il y a un autre petit événement, un autre petit festival qui s'appelle Les Franco. Donc, 10 au 18 juin, c'est déjà commencé. Alors, je sais que vous allez nous en parler. Je vous invite cependant, avant de laisser la parole à Yvan, à aller sur le site, encore une fois, non pas le site de la place des festivals où a lieu les Franco, où ont lieu les Franco, excusez-moi, qui aussi vont se déplacer sur l'esplanade tranquille cette année. Il y a une scène qui est installée.
Ah oui.
Alors, pour ceux qui ne sont pas encore allés. Donc, les Franco et à l'intérieur de cette activité, de ce grand événement à Montréal qui, on renoue avec ça, il y aura, je vous le rappelle, la remise du prix Félix Leclerc. Il y a 9 artistes qui sont en lice pour la chanson 2022. Et ce prix-là, c'est vraiment important parce que ça encourage la production et la création francophone. À votre tour, Yvan. Ben, je suis essoufflée, alors je vous laisse la parole.
C'est parce que les Franco, c'est un peu le coup de départ de l'été, d'un été qui a tardé depuis 2 ans. Alors, souvenez-vous qu'il y a des spectacles gratuits à l'extérieur tous les soirs, et pas les moindres. Prenons au hasard dimanche à 19h, Bye 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 Karim, avec Saramé, Ariane Moffat, Clopelgag, Valère, Hubert Lenoir, à la Claire Ensemble, Claude Séguin, Fanny Blum et La Bronze. Il y a aussi Émile Bilodeau et ses invités, ça c'est lundi soir prochain. C'est parce que là, je suis dans le dépliant, puis mon dépliant, je l'ai plié de telle façon que je ne vois pas les soirs. Donc, Émile Bilodeau et ses invités, c'est Scott Picard, Maten, Laura Nikwe et Elisapi. Et encore Louis-Jean Cormier, l'événement spécial vendredi prochain, le 17 juin, l'événement spécial, c'est Louis-Jean Cormier, Le ciel est au plancher. Évidemment, si vous me cherchez quelque part mercredi, courez pas après moi, je vais être à la Place des Arts pour voir Patrice Michaud parce que je vais voir tous les spectacles de Patrice Michaud.
Moi, mardi, j'irai voir Hubert Lenoir. Oh! En plein air.
En plein air,
oui. En plein air, oui, en plein air.
Excellent, excellent. Les autres choses qui attirent mon attention en fin de semaine, ben bon, vous savez que j'aime le vélo, c'est le grand défi Pierre Lavoie présentement. Ils ont commencé ça sous la pluie hier en début d'après-midi. Ils vont rentrer à Montréal dimanche midi. C'est toujours un spectacle fantastique à voir. Ça se passe toujours près du Stade olympique. Et on participe aussi au 1 million de kilomètres ensemble. Présentement, là, je l'ai sous les yeux, on a amassé 271 691 kilomètres. Il y a 72 326 participants. Ça veut dire à peu près 4 kilomètres par participant. J'ai calculé...
C'est bien quand même!
Oui, mais j'ai calculé que ça prend à peu près 15 kilomètres pour ce nombre de participants-là, 10-15 pour arriver à 1 million. Donc, puis moi, j'ai pas encore rentré mes chiffres. Là. Je suis inscrit. Vous avez juste à vous inscrire. Puis vous rentrez le nombre de kilomètres que vous aurez eu pendant la fin de semaine.
Alors, merci Yvan. C'est ainsi qu'on se quitte aujourd'hui, mais c'est pour un retour la semaine prochaine. Merci à Nicolas Svartman de nous avoir accompagnés, encadrés. En tout cas, il est derrière nous et on aime bien travailler avec lui.
Oui.
Merci Yvan. Merci chers auditeurs. Et avez-vous un clin d'œil à nous faire avant de quitter, Yvan?
Ben, je pense que le clin d'œil, il va venir du ciel aujourd'hui, en fin de semaine. Il va faire un clin d'œil particulièrement demain. Alors, profitez du beau temps pour aller dehors, respirer, faire un peu d'exercice. On a parlé des Franco, on a parlé de...
Mural.
De la murale. Alors, il y a plein d'activités. C'est l'été qui commence. Profitez-en. Et nous, on se revoit... Non, on se réentend la semaine prochaine, le 17.
On revient en ondes.
On revient en ondes.
La semaine prochaine.
Cinquième édition avec vous.